point de départ que j'affiche ici, cette édition récente de What is Cinema, traduite par Timothy Barnard. Et effectivement, je me suis arrêté moi aussi à cette très longue note de 20 pages sur la question du découpage, qui est une forme de sémantique historique, finalement, que propose Barnard, une forme de sémantique historique, qui donc s'intéresse aux premières occurrences du terme, qu'il a repérées grâce au précieux lexique du cinéma français des origines à 1930 de Jean Giraud. Et donc, il va jusqu'aux usages des historiens et théoriciens actuels, Birch notamment, donc pour montrer les nuances que l'histoire a pu apporter à ce mot, histoire au milieu de laquelle donc prend place Bazin. Donc, ce travail proposé par Barnard esquisse une direction qu'on pressent féconde, mais il aurait nécessité, pour être mené à bien, des développements qui excèdent largement les ambitions et le cadre que Barnard s'est délimité. Donc, ce qui fait un peu défaut, mais ce n'est pas du tout un reproche, c'est un autre travail, hein, je le précise, ce qui fait un peu défaut dans cette longue note déjà, c'est, je crois, que si l'on veut essayer de comprendre au mieux l'usage, et il faudrait dire d'ailleurs les usages que fait Bazin, que font ses contemporains de ce terme de découpage, eh bien, ce qui fait défaut, peut-être, c'est d'entreprendre une plus vaste archéologie du terme, et archéologie que finalement j'ai préféré appeler une archéologie, une archéologie du chaos que dessinent les multiples usages du terme, et puis une archéologie qui est forcément elle-même un peu chaotique. Donc partant du constat que Bazin et d'autres, je le redis encore, transforment ce terme en notion cardinale d'un système théorico-critique, cette archéologie consisterait à étudier les multiples usages du terme tel qu'il circule à l'époque de Bazin, perspective synchronique, et simultanément à comprendre comment ces usages se trouvent dans une certaine mesure déterminés par d'autres usages antérieurs qui n'ont cessé de se transformer depuis la naissance du cinéma, perspective diachronique. Cette question de l'origine du terme et du caractère de détermination qu'elle revêt a d'ailleurs elle-même été esquissée, mais vraiment esquissée très vite, par un article célèbre, « Évolution actuelle du langage cinématographique ». Il ne s'agit pas de l'évolution du langage cinématographique d'André Bazin, mais c'est en fait un texte d'Amingual, du montage au découpage, évolution actuelle du langage cinématographique. Alors je précise d'ailleurs que ce texte, tel qu'il a été publié dans la revue Images et Sons en 1952, est bourré de coquilles, coquilles que Amingual a lui-même corrigées lorsque le texte est paru, mais à la main dans l'exemplaire qu'il a conservé. Bref, mon objet, vous l'avez compris, consiste à proposer les pistes d'une possible sémantique historique élargie du terme découpage depuis son apparition dans le champ francophone où l'on a évidemment inventé ce terme, mais qui s'est vite trouvé chargé d'une telle force heuristique qu'on a pu prétendre vouloir l'utiliser en français dans des langues étrangères. Donc c'est ce que Buñuel propose de faire, conserver le terme français en espagnol. Donc, et si j'ai choisi de m'arrêter comme borne finale à la période, disons par commodité, basinienne, c'est outre que cela constituait déjà un trop large festin, c'était un gros problème, mais c'est aussi parce qu'il me semble que par la suite, cette notion a vu sa signification et ses usages d'abord se stabiliser, plus ou moins, avant de perdre lentement de sa force heuristique, et donc au point de ne pas apparaître, par exemple, dans la liste des entrées du récent dictionnaire de la pensée du cinéma. Il n'y a pas d'entrée découpage. Le travail que je me suis proposé d'effectuer repose donc sur le repérage d'occurrences diverses du terme, bien évidemment pas du tout de manière exhaustive. Donc certains trouveront sans doute qu'il manquera tel ou tel texte, mais je précise que mon but n'était pas de circuler dans un corpus de textes sanctifiés, déjà connus et toujours retenus, parce qu'émanant de telle ou telle personnalité. Il me semble que le risque, en ne constituant son corpus qu'avec des textes célèbres, des textes célèbres, d'auteurs célèbres, c'est de n'avoir à traiter qu'une addition de cas singuliers et aussi de manquer des usages courants, les usages pleinement socialisés du terme. Et donc c'est plutôt cela qui m'a intéressé, même si évidemment quelques textes célèbres, on en a déjà vu, vont émailler cette communication. Pour circuler dans ce vaste corpus d'occurrences, il me fallait une ligne directrice assez claire et facile à définir, facile à tenir, à partir de laquelle il pourrait s'agir de trouver des règles de circulation du terme. Cette ligne directrice a consisté très simplement à se demander systématiquement, dès lors qu'il y a mention d'un découpage, qui découpe quoi. Il semble en effet probable que les problèmes que nous rencontrons avec le terme découpage tiennent à l'ambiguïté de ses usages laquelle provient elle-même, pour une bonne part, de ce qui se perd dans le processus de substantivation du verbe découper, qui, devenant donc un substantif, abandonne sa nécessaire relation à un sujet et à un objet. Chacun croit savoir ce qu'est un découpage, oubliant de s'interroger tout aussi bien sur celui qui l'opère que sur ce sur quoi on l'opère. J'ajoute donc, pour conclure l'introduction, que cette sorte de fil rouge, qui paraît sans doute un peu simpliste, peut pourtant se révéler assez utile pour comprendre pourquoi l'on a retenu l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, comme un moment de forte théorisation du découpage en France. Il me semble que c'est précisément un moment où, à la question « qui découpe quoi ?», on apporte des réponses nouvelles en tentant de résoudre certaines apories. Et pour le coup, je vais être plus basinien que Hervé, paradoxe, en pensant que ce moment, avec Bazin, est un moment assez original de rethéorisation du découpage. Mais pour le comprendre, il faut revenir en arrière, et donc je propose de traverser rapidement, j'ai déjà pris pas mal de temps pour l'introduction, presque 50 années de cinéma, pour revenir non pas aux origines de l'idée de découpage, je précise bien, mais aux origines des usages du terme en cinéma en France. Alors bien évidemment, le terme de découpage relatif à la construction filmique n'apparaît qu'après que la pratique de la construction filmique s'est généralisée, c'est-à-dire le passage des vues uniponctuelles aux bandes pluriponctuelles, comme dirait André Gaudreau. Mais avant même le processus de verbalisation du phénomène de la pluriponctualité, le terme de découpage existe en cinéma. Il revêt évidemment d'autres significations, il correspond à d'autres pratiques. Aux alentours de 1912, on peut trouver plusieurs occurrences du terme, très différentes, dans le domaine du cinéma. Elles se divisent principalement en deux types. Le découpage peut concerner la fabrication de la pellicule, découpée à la fois dans sa largeur et dans sa longueur. Ici, c'est sur la largeur qu'on insiste, puisque le découpage mentionné consiste principalement à sectionner un très large rouleau de celluloïde en un nombre non précisé de bandes, faisant toutes 35 mm de largeur. Mais par ailleurs, on indique aussi, plus loin dans le texte, que la pellicule subit une autre forme de coupe, relative cette fois à sa longueur, limitée à 400 pieds, soit à peu près 122 mètres. Alors, tout ça peut sembler assez peu nous intéresser, mais nous rappelle tout de même que, pour un grand nombre de professionnels de l'époque, le cinéma ne saurait être considéré pleinement comme l'enregistrement du réel. Les limites physiques des divers objets techniques qui le constituent, à commencer par la pellicule, en font plutôt l'enregistrement d'une découpe du réel, découpe dans l'espace, le cadre, déterminé partiellement par la largeur de la pellicule, et découpe dans le temps, la longueur de la bobine. Cette découpe mécanique, qui renvoie à la nature mécaniste ou machinique du dispositif cinématographique, concerne donc ici les limites spatiales de l'image cinématographique, en même temps que les limites temporelles de la succession d'images, que celles-ci soient continues ou discontinues. Il n'est sans doute pas totalement insignifiant qu'ainsi ce découpage oblige à penser le film, dès l'enregistrement de ces images, en termes de blocs de temps et d'espace prélevés sur le réel, idée qui va se retrouver chez divers penseurs justement fascinés par la nature machinique du cinéma. Idée qui s'incarne aussi dans certains films Lumière, conçus, comme l'a déjà très bien analysé il y a longtemps Langlois, en fonction des limites d'un cadre et des limites de longueur de la bobine. Alors tout ça est assez convenu, j'en conviens justement. Le second mode de découpage que connaît le cinéma des premiers temps, toujours vers 1912, et de manière encore un peu plus éloignée, nous semble-t-il, est relatif au coloris, que l'on applique à de nombreuses copies. Afin d'améliorer la productivité de cette activité importante, je rappelle que les films coloriés sont vendus et loués plus cher que les films non coloriés, donc que la couleur est avant tout un moyen de marger, si je puis dire. Donc afin d'améliorer la productivité, on invente très vite plusieurs dispositifs, dont celui du pochoir, qui consiste à découper, par exemple dans du carton, la forme à colorier. Cela permet d'éviter tout coup de pinceau intempestif en dehors de la zone de coloriage. Mais cette méthode a tout de même un gros inconvénient qui la discrédite aux yeux de certains, comme Méliès par exemple. La forme à colorier est figée par le découpage, alors même que le plus souvent, elle ne cesse de varier, certes parfois presque imperceptiblement, d'une image à l'autre. Dès lors, le pochoir provoque cela même qu'il est censé éviter, en plus du gain de temps qu'il engendre, à savoir une relative imprécision. Mais la découpe du pochoir pour la couleur n'est pas qu'un enjeu financier, évidemment. Il s'agit aussi de favoriser la circulation du regard dans l'image, de rendre donc cette dernière plus lisible à une époque où, pour diverses raisons, le modèle du cadrage en pied paraît s'être imposé durablement. Il peut donc s'agir de souligner par la couleur une portion de l'image, de l'opposer à une autre portion, non coloriés ou coloriés dans une couleur très différente. Par conséquent, ce qui se joue avec le coloris et sa généralisation grâce à la découpe du pochoir, qui permet d'aller plus vite, donc de colorier plus de copies et plus de films, c'est une façon de segmenter le tableau, non pas de façon temporelle, mais sur le plan spatial, en rendant possible un investissement parcellisant du regard dans l'image, en sollicitant un regard découpeur. En d'autres termes, couleur et composition sont les deux moyens par lesquels les films des premiers temps peuvent en quelque sorte lutter contre le principe même qui les structure, celui du tableau autonome, dont la longueur est généralement dictée par l'unité de l'espace. Donc, à défaut d'abolir la durée, composition et couleur participent d'une tentative de modelage de l'espace. Alors, ajoutons donc, pour clore partiellement cette réflexion autour du découpage lié au coloris, que ce découpage ne relève pas que de la contrainte invisible imposée par la machine, mais aussi et surtout de l'intervention visible de l'homme. Non seulement la couleur issue du découpage du pochoir et elle-même découpant l'image se donne à voir, mais en plus, elle est alors valorisée, par exemple, dans les catalogues, comme un signe d'artisticité. Peut sembler se jouer ici une sorte d'opposition, qui va se prolonger, même si on sait bien qu'elle est plus ou moins factice, entre, d'une part, un cinéma, disons, manufacturé, pour lequel l'intervention humaine, dans le pro-filmique, aussi bien que sur la pellicule, c'est-à-dire aussi par le montage, lui-même partiellement déterminé par le découpage, l'intervention humaine, donc, est le gage d'une certaine artisticité, et d'autre part, un cinéma machinique, pour lequel l'effacement humain devant les contraintes de la machine est le gage d'une captation réussie du réel. Si je m'arrête aussi longuement sur cette question, qui pourrait sembler quelque peu connexe, c'est parce que je crois au contraire qu'elle n'est pas sans conséquence sur quelques conceptions du découpage qui vont se développer par la suite. Concevoir l'image cinématographique sur un plan avant tout pictural, puisque c'est finalement de cela qu'il s'agit, concevoir l'image cinématographique comme jeu dialectique entre des portions qui la structurent, n'est en effet pas sans écho par la suite. Dès le début des années 20, l'idée, nous le savons bien, va être approfondie par exemple par Eisenstein, avec le principe du conflit de fragments interne au cadre, conflit graphique, conflit des volumes, conflit spatial, etc. Avec cette conception, il ne s'agit plus seulement de rendre lisible l'image, mais de rendre lisible la signification que l'on vise à donner à l'image. On sait que cette lisibilité de la signification, qui va rapidement devenir l'un des buts du découpage, a contribué à une sorte de discrédit d'une partie du cinéma classique par André Bazin, ce qui peut rejoindre ce qui a un peu été évoqué tout à l'heure, et donc discrédit de ce qu'il appelle le découpage-montage ou le découpage analytique, qu'il oppose notamment, dans un texte célèbre, à la profondeur de champ de William Wyler, libérale et démocratique, comme la conscience du spectateur américain, laquelle profondeur de champ contribue à rassurer le spectateur et à lui laisser le moyen d'observer et de choisir, et même le temps de se faire une opinion grâce à la longueur des plans. En 1947, un an avant la publication du texte sur Wyler, Bazin a déjà commencé à développer cette idée dans son article sur Citizen Kane, publié dans Les Temps modernes. Il y analyse longuement la séquence de la tentative de suicide de Susan Alexander Kane et, plus particulièrement, le dynamisme interne de cette image étiré entre ces deux pôles, avec son premier plan monstrueux collé au visage du spectateur et ce petit rectangle sonore très loin où se devinent l'angoisse et la colère de Kane. Or, ce qu'il souligne ici relève pour une bonne part de conflits de fragments qui structurent l'image et façonnent sa lisibilité. De fait, il n'y a pas ici une opposition entre deux conceptions du découpage de l'image, qui au contraire sont assez proches, mais plutôt une opposition entre deux conceptions du montage, opposition perceptible dans la différence de longueur du plan et dans la nature des rapports que le plan, dans un système esthétique ou dans l'autre, entretient avec les plans qui l'entourent au sein de la structure narrative. Apparaît ici une ambiguïté bien connue entre découpage et montage, ambiguïté déjà largement commentée, par exemple par Jean-Pierre Berthomé et François Thomas, qui discutent ainsi l'hypothèse de Bazin. Alors évidemment, j'ai choisi cette citation parce que sa manière d'insister sur la silhouette qui se découpe indique combien le travail de Wells entretient de nombreuses affinités avec une pensée du découpage dans l'image qui court en pointillé des premiers temps jusqu'à Eisenstein et continue donc après Eisenstein, reprise par exemple en France par un Moussinac lorsqu'il parle en 1923 du rythme intérieur des images obtenu par la représentation des corps, costumes, éclairage, objectifs, angle de prise de vue et l'interprétation. Ambiguïté donc déjà bien connue, largement commentée, mais dont il faut redire qu'elle est sans doute liée à ces multiples acceptions et circulations du terme de découpage depuis ses premières occurrences. En fait, ce découpage de l'image, ou ce découpage image, que je vais appeler comme ça par commodité uniquement, et non pas à des fins de théorisation, ce découpage image donc que le coloris construit, notamment à des fins de lisibilité, constitue une sorte de situation triviale, dans tous les sens de ce terme, c'est-à-dire une pratique commune, banale, reconnue par presque tous, puisque cette conception de l'image est très répandue dans le cinéma des premiers temps, et face à laquelle plusieurs voies vont s'ouvrir, peut-être donc les trois voies du trivium, peut-être plus. Ces différentes voies vont déboucher logiquement sur différentes conceptions du découpage. Donc, après cette association du terme de découpage au coloris, la circulation du terme, cette fois sans lien avec le coloris, commence dès le début des années 10. Dans son lexique déjà cité, Giraud mentionne comme première occurrence parmi celles qu'il a retrouvées une phrase du Temps en 1917 qui évoque, donc, vous le voyez, des subtilités et des ingéniosités de découpage. La citation est placée à côté de deux autres citations, toutes deux d'Henri Diamant-Berger qui conçoivent le découpage comme la forme définitive du scénario. On a donc ainsi l'impression que c'est l'acception qui s'impose à la fin des années 10, sans réel rapport avec cette idée de découpage d'image née du coloris. Et on peine donc à comprendre comment, de 1912 à 1917, on passe d'un découpage image au découpage comme texte, donc ce que je vais appeler ici toujours par commodité le découpage texte. Découpage texte destiné à rendre un scénario cinématographiable. On peine même à comprendre comment ce découpage texte a fait son apparition. Or, il se trouve que le même Diamant-Berger, dès juin 1918, propose une autre acception du terme. Donc on est déjà dans des acceptions plurielles. Dans sa revue Le Film, il consacre l'un de ses éditoriaux au gros plan, au pluriel, à leur forme et à leurs usages, remarquant que, comme d'autres procédés, ils servent finalement à rendre plus lisible, plus compréhensible une situation, mais aussi à l'analyser, c'est-à-dire à nous montrer seulement ce qui nous intéresse au moment opportun, dit-il. On voit bien qu'ici, à la différence des citations proposées par Giraud, l'objet du découpage n'est pas le scénario, mais un continuum spatio-temporel, qu'il soit inventé ou réel. Et ce qui distingue ce découpage du montage est qu'il est produit par une pensée qui préexiste à l'enregistrement. Plus exactement, ce que Diamant-Berger nomme ici découpage, c'est l'acte de penser la mise en image, image au pluriel, d'une situation, mise en image qui peut avoir été préalablement consignée sur le papier dans un découpage texte, mais qui peut tout aussi bien être demeuré dans l'esprit du metteur en scène sans fixation écrite. Bref, il y a l'outil, il y a la pensée pouvant avoir besoin de l'outil, mais pouvant tout aussi bien s'en passer. Donc c'est ce que j'appellerai ici le découpage pensé, encore une fois, uniquement à des fins de commodité. Diamant-Berger fait donc de ce principe de fragmentation une règle fondamentale, c'est ce qu'il dit, du cinéma, prolongeant à sa façon la croyance dominante à cette époque que le cinéma ne peut accéder au statut d'art qu'en développant ce qui lui est singulier et qui tient donc, comme pour les autres arts, à ses capacités à transformer le réel plus qu'à l'enregistrer. En ce sens, ce découpage pensé proposé par Diamant-Berger, puis par d'autres à cette époque, prend la suite du découpage image, d'autant qu'il s'inscrit aussi dans la lignée d'un cinéma manufacturé opposé à un cinéma machinique, pour lequel les traces visibles de la main sont autant de gages d'artisticité. La main créatrice joue en effet un double rôle dans ce découpage pensé, ou dans ce découpage bien que pensé. D'abord parce que, bien évidemment, ce découpage pensé peut être écrit et se convertir en découpage texte, la main devenant alors l'incarnation physique de la pensée, comme le dit Buñuel, toujours dans le même texte, vers 1927. Ensuite, parce que, comme on le répète beaucoup à l'époque, le découpage se concrétise finalement au montage en mettant la main à la pâte, comme le dit encore Buñuel dans le même texte, pour exécuter l'acte matériel d'accoupler des éléments bout à bout en faisant concorder les différents plans entre eux, en se débarrassant à grand renfort de ciseaux de quelques images importunes. Façon de dire que pour Buñuel, le montage ne fait jamais que préciser le découpage, l'affiner à quelques images près. Cependant, la proposition de Diamant-Berger ne s'adosse pas qu'à une vision de ce que doit être l'art cinématographique. Elle trouve également ses fondements dans des considérations très peu théoriques. Il s'agit en effet, plus prosaïquement, de s'adapter à la tendance du moment, de s'accorder aux principes esthétiques qui se dégage de l'imposante production américaine présente alors sur les écrans français. On le sait, la production cinématographique française peine à redémarrer après-guerre. En plus de la forte concurrence américaine et des stratégies frileuses des grandes maisons de production comme Pathé, qui préfèrent importer des films ou se recentrer sur la fabrication de matériel plutôt que d'investir massivement dans la production, les films français tendent globalement à s'arc-bouter sur une forme qui fit leur succès avant-guerre, sans voir que des œuvres comme Forfaiture, formidablement accueillies en France, les ont brutalement démodées par leur manière de varier les vues, les angles, bref, de découper une situation. C'est d'ailleurs en substance ce que dit Vuillermoz, qui est sans doute ce, celui qui se cache d'ailleurs se vait, dans cet article décidément très mal cité par Giraud. En effet, le découpage n'est pas ici l'outil écrit, adaptant le scénario aux contraintes, aux principes cinématographiques, mais bien une sorte d'anticipation dès le tournage de la forme fragmentaire que prendra finalement le film. Cette qualité formelle qui naît du découpage semble, selon Vuillermoz, caractériser le cinéma américain par opposition avec le cinéma français, qui paraît en être dépourvu. Or, Diamant Berger, qui à cette époque est aussi un jeune producteur-metteur en scène, partage cette opinion. Selon lui, la production française ne doit pas manquer le tournant du découpage s'il veut rester concurrentiel. Il doit adopter les méthodes américaines pour continuer d'exister face au cinéma américain. De fait, le lieu social depuis lequel des personnes comme Diamant Berger et Vuillermoz promeuvent le principe de découpage pensé doit être pris en compte pour comprendre la fonction symbolique que recouvre cette notion. Le but est clairement, je l'ai déjà dit, grâce au découpage, de faire accéder le cinéma au statut d'art, enjeu essentiel de cette époque. Mais démontrer que le cinéma n'enregistre pas le réel puisqu'il le découpe, ou plus exactement puisqu'il découpe le continuum spatio-temporel qui peut être réel ou juste imiter le réel, démontrer cela n'est pas totalement suffisant. Chacun, à sa manière, ajoute une dimension. D'un côté, avec Diamant Berger, il s'agit d'égaler le niveau d'artisticité reconnu par la presse française au cinéma américain. De l'autre, avec Vuillermoz, il s'agit de placer l'acte de création cinématographique au même plan que l'acte de création musicale, puisque l'on sait, je vais laisser ça de côté puisque ça a été très largement développé par Laurent Guido dans son livre, on sait que la pensée du découpage mise en place par Vuillermoz et d'autres s'adosse à un modèle musical. Modèle musical qui, par parenthèse, va durer très longtemps, puisque dans les années 40, encore, on envisage le découpage texte comme un équivalent de la partition musicale. Il faut ajouter que si Diamant Berger contribue, nous l'avons vu, à populariser l'une et l'autre des acceptions du terme découpage, c'est probablement parce que lors de son voyage aux États-Unis, juste avant, pendant la guerre, il a pu constater que cette forme singulière des films américains s'incarne en quelque sorte dès la production, dans le travail d'adaptation du scénario, en vue de le rendre cinématographiable. Le découpage pensé existe alors aux États-Unis essentiellement à travers l'usage du découpage texte. Et c'est donc logiquement que les deux acceptions vont circuler parallèlement durant les années 20 en France, se relayant en quelque sorte l'une l'autre. Tandis que dans les années 30, nous le verrons, elles tendront plutôt à fusionner au détriment du metteur en scène. Bien évidemment, ce sont dans un premier temps les plus revendicatifs quant au statut d'art du cinéma qui vont s'emparer massivement et itérativement de la notion de découpage, et plus particulièrement du découpage pensé. L'ampleur du phénomène est telle, dans les années 20, qu'elle dissuade toute prétention à une présentation détaillée, et puis encore une fois, Laurent Guido a beaucoup développé ça, je n'y reviens pas. Quelques remarques cependant pour compléter ce que Laurent Guido a déjà pu faire. D'abord, si la notion acquiert très vite une grande popularité auprès du public spécialisé, popularité mesurable au très grand nombre d'occurrences du terme dans la presse, c'est sans doute pas pour sa portée heuristique, d'autant que les journaux ne cessent de sous-entendre que les lecteurs ont bien du mal à comprendre ce que recouvre le terme de découpage. On passe son temps à dire « on va vous expliquer dans notre prochain numéro », etc. Bon, bref. Donc cette popularisation, la notion de découpage, la doit, je crois, au formidable prosélytisme en la matière d'une presse spécialisée, convaincue qu'elle possède là un concept qui sert parfaitement ses desseins de reconnaissance du cinéma comme art. On peut, je crois, réellement parler de prosélytisme, car de nombreux moyens très divers sont utilisés pour tenter d'ancrer dans l'esprit des lecteurs-spectateurs l'importance du découpage en cinéma à travers la presse la plus cinéphile. Alors, ça peut passer par la mise en place d'un concours, qui se présente comme un banal concours de scénario, mais qui se révèle en fait être un concours de découpage, puisque c'est bien cela qu'il faut envoyer à la revue. On comprend aisément ce qui sous-tend cette idée. Produire un scénario n'est pas considéré par les rédacteurs de cinéma comme un acte de création cinématographique. Cette phase du processus étant le plus souvent confiée à des écrivains, à une époque où le métier de scénariste professionnel ne paraît pas encore pleinement exister. Je renvoie sur cette question aux travaux d'Alain Carou sur le cinéma et les écrivains. On observera au passage que cette idée n'appartient pas seulement au camp de l'avant-garde. L'arrière-garde pâtée, si je puis dire, la partage également, puisque la société organise elle aussi, sans doute à d'autres fins, un concours de scénarios, à peu près au même moment, caressant l'espoir apparemment un peu fou de débusquer des scénarios découpables, c'est-à-dire susceptibles de quitter le registre de l'artisticité littéraire pour entrer dans le domaine de l'artisticité cinématographique. Cette idée du découpage comme étalon de l'artisticité cinématographique est corroborée par la deuxième forme que peut prendre ce prosélytisme, à savoir la publication de découpages. Donc deux textes qui ne sont pas présentés délibérément comme des scénarios, mais on leur donne d'autres noms, vous allez vous en rendre compte, hein. Composition cinégraphique. Textes qui s'apparentent clairement et même explicitement à des découpages. Donc ce texte semble être resté à l'état de chrysalide et n'avoir jamais été tourné. Et ça montre d'autant mieux que la fonction de la publication de ces textes paraît être essentiellement didactique. Donc on a inventé un découpage pour montrer ce que c'est au lecteur. Cette pédagogie du découpage porte très vite ses fruits, semble-t-il, puisque les années 20 voient l'efflorescence du découpage comme outil critique, comme critère d'évaluation, aussi bien pour défendre un film, j'en ai choisi un que j'aime particulièrement, le film, pas le texte, aussi bien donc pour défendre un film que pour l'attaquer, car le découpage se présente finalement comme une notion assez commode, apparemment très maniable, qui permet de faire l'apologie d'un type de cinéma, marqué par un travail sur le rythme, comme d'en faire le procès, ce qu'on peut voir par exemple ici, où on parle de déchiquetage, donc ça va envoyer aussi à l'écarissage qu'évoquait Hervé en quelque sorte, plutôt que de découpage. Mais ainsi apparaît progressivement une troisième exception, je crois, que je vais appeler ici découpage critique. Dès lors que le terme n'émane plus seulement des professionnels, comme Diamant Berger, qui veulent décrire l'acte de création cinématographique, il est logiquement amené à devenir dans des discours qui ne relèvent plus que de la théorie ou de la critique, non plus la description de cet acte de création, mais son résultat, c'est-à-dire une façon de nommer le rythme propre à l'art cinématographique, le terme de rythme pouvant présenter justement le désavantage de trop renvoyer à d'autres pratiques artistiques. Moussinac, une nouvelle fois, paraît dès 1923 avoir parfaitement saisi ce léger déplacement qui s'opère et auquel simultanément il contribue. Cette troisième acception connaît donc très vite, je l'ai dit, une vraie fortune critique, et même bien au-delà des publications spécialisées, puisque dans les quotidiens, donc la presse non spécialisée, pardon, on trouve aussi dans les années 20 beaucoup d'occurrences, exemple ici, du terme de découpage. Bien évidemment, l'intérêt de plus en plus large de la critique pour l'idée de découpage contribue à populariser un peu plus en France, auprès d'une très grande majorité de metteurs en scène, bien au-delà de l'avant-garde, la notion de découpage. On le voit par exemple avec ces propos de Raymond Bernard qui confine à l'apologie du découpage pensé. Mais Raymond Bernard plaide aussi, assez subtilement, pour faire du metteur en scène le lieu, si l'on peut dire, d'une fusion entre les deux découpages, le découpage texte et le découpage pensé. Ce qui renvoie clairement à un débat essentiel de cette époque autour de cette notion de découpage. Car cette expansion apparemment illimitée du terme se heurte à quelques problèmes, tous liés à la question du modèle américain. Le premier problème tient aux limites de l'américanophilie des spectateurs, et notamment des spectateurs spécialisés. Cette américanophilie peut, dès cette époque, constituer un clivage entre cinéphiles défendant pourtant une même conception du cinéma comme art du découpage, par exemple entre Deluc et Moussinac. Mais ce constat va bien au-delà des membres ou des défenseurs de l'avant-garde. Pour beaucoup de professionnels de l'industrie cinématographique française, le cinéma américain est tout autant une menace qu'un modèle. Et il s'agit là, bien sûr, d'une forme d'appréciation ambivalente qui a traversé l'histoire des relations cinématographiques entre la France et les États-Unis. Mais comme chacun convient alors que le découpage, qu'il soit texte ou pensé, a connu son apparition réelle aux États-Unis, et qu'il est là-bas fort répandu, ce découpage américain, entendez les guillemets, hein, comme on le nomme alors, peut faire fonction d'idéal comme de repoussoir. En d'autres termes, le découpage américain incarne, pour beaucoup de metteurs en scène français, un système de production dont il paraît indissociable, système que certains veulent à tout prix éviter et que d'autres envient. C'est tout le sens d'une autre citation donnée partiellement par Giraud dans son lexique au sujet du découpage américain. Il s'agit en fait d'un article de Jacques Faure consacré à l'histoire de J'ai tué racontée par son metteur en scène, Roger Lyon. Sur ce film, qu'il précise avoir découpé lui-même, Roger Lyon obtient pour le rôle principal l'accord de Sessiu Hayakawa. Il lui remet son scénario, qui est en fait, semble-t-il, un découpage texte, et s'attire les reproches de son interprète. Pour Roger Lyon, il existe deux conceptions économiques totalement différentes du découpage texte, mais qui va ici de pair avec le découpage pensé. D'un côté, une conception française qui laisse toute latitude pour concevoir un découpage essentiellement en fonction du critère artistique, je mets des guillemets, critère en tout cas peu assujetti aux contraintes économiques. De l'autre, une conception américaine dans laquelle le découpage n'est qu'une tâche parmi d'autres au sein d'un processus qui relève plus de l'économique que de l'artistique. C'est comme ça qu'il est présenté en tout cas. puisque ce découpage est présenté comme n'ayant pour fonction que de valoriser le principe du star system. Ces deux conceptions engagent deux pratiques tout aussi divergentes, puisqu'on peut penser que l'enjeu pour Hayakawa est notamment de bénéficier de plus de gros plans, ou de plans plus serrés, ou encore de plans plus longs sur lui. Enfin, ces deux conceptions et ces deux pratiques débouchent sur des usages sociaux radicalement opposés, puisque à la question « qui découpe quoi ?», la différence entre le découpage français et le découpage américain porte bien sûr sur le « qui ». D'un côté, le metteur en scène, qui est censé être le seul maître d'œuvre du découpage, c'est ce qu'on revendique en France, et en un sens, c'est par le découpage qu'il assoit sa position de créateur du film. De l'autre, la tâche est confiée à une femme, ce qui, dans l'industrie de l'époque, indique nettement le peu de cas que l'on fait de cette phase, non pas au plan de son intérêt industriel, mais plutôt en ce qui concerne sa dimension créatrice. Une femme, qui plus est, anonyme, elle ne sera jamais citée, son nom ne sera jamais donné dans le texte, qui est donc renvoyée à son statut d'intermédiaire quelconque dans une chaîne de production. Et c'est là le deuxième frein principal à l'expansion de la notion de découpage dans les années 20. Car si sa fonction symbolique est de permettre, parmi d'autres éléments, la reconnaissance du cinéma comme art, alors le sujet du découpage ne peut être qu'un artiste. Or, ce principe, comme le reconnaissent certains, se heurte au système d'organisation du cinéma américain, basé sur la parcellisation des tâches. C'est aussi dans cette perspective qu'il faut lire, je crois, les nombreux articles dans une revue comme Cinéa, visant à replacer, parfois contre cette réalité industrielle du cinéma américain, le découpage, texte et pensée, dans la sphère de création du metteur en scène. L'enjeu est d'instituer le metteur en scène en auteur du film, quel que soit le pays de production, en déplaçant cette autorialité encore très liée dans l'imaginaire collectif au fait d'écrire, en la déplaçant de l'écriture du scénario à l'écriture du découpage. Là encore, afin d'être acceptée par les lecteurs, cette idée fait l'objet d'une véritable pédagogie qui, comme beaucoup de pédagogies, repose sur la répétition. On fait en sorte d'annoncer systématiquement la paternité du découpage et, si possible, de l'attribuer au metteur en scène. Mais cela ne va pas d'un numéro à l'autre, d'un rédacteur à l'autre, sans quelques contradictions, qui finalement, contradictions puisque vous allez voir que dans un article suivant, ce n'est plus Niblo le découpeur, c'est le scénariste. Donc contradictions qui finalement, pour un lecteur attentif, produisent exactement l'effet inverse de ce que l'on souhaite, de ce qu'on espère. La prise de conscience que cette phase du processus créatif constitue certes un enjeu important, mais fait donc l'objet d'une sorte de tension entre deux pôles, l'auteur littéraire, l'auteur metteur en scène. Ce qui ressort assez clairement de ces différents articles, c'est que le découpage texte, tel qu'institué par et dans le cinéma américain, tend à mécaniser le cinéma manufacturé, presque à automatiser la pensée de la découpe, en faisant correspondre tel type de plan à telle situation, comme on va l'enseigner plus tard dans les écoles de cinéma, ou en adaptant le choix des plans à la star, comme le laisse entendre, la remarque de Hayakawa. Donc ce découpage texte tend aussi à soumettre au contrôle, à la vérification, l'acte de création, à rendre systématiquement matériel le découpage texte, ce qui peut relever de l'immatériel, le découpage pensé. Tout cela prenant place de manière évidente dans un vaste processus d'industrialisation du cinéma comme art. Cette tension entre le modèle américain et la pratique française, qui est aussi liée au fait que beaucoup d'articles émanent de professionnels, débouche sur l'affirmation d'une véritable spécificité française en la matière, l'absence de séparation entre le découpage texte et le découpage pensé, les deux relevant pleinement les prérogatives du metteur en scène. Cette spécificité devient en quelque sorte officielle lorsqu'elle se trouve inscrite dans le marbre du droit, ou disons dans la glaise des contrats, dès le milieu des années 20. Il est intéressant de noter que tout en citant ce passage du code du cinéma, sans le discuter, Quassac, puisque c'est une citation tirée d'un livre de Quassac, Quassac, qui se pose à cette époque en représentant de l'industrie cinématographique française, défend dans cet ouvrage les coulisses du cinéma, une vision exactement opposée, puisque favorable à la création en France de ce métier qui n'existe alors qu'officiellement aux États-Unis, celui de découpeur. Cela apparaît clairement dans son ouvrage, par l'intermédiaire d'un long texte de Boudrioz, qui se présente comme découpeur, mais c'est le seul que j'ai croisé à cette époque-là. Mais ça passe surtout, en fait, par la conclusion que Quassac appose à ce texte de Boudrioz, où il appelle finalement à la création du métier de découpeur en France, qui semble encore relativement absente dans le champ professionnel. Alors l'écart entre la position officialisée par le Code du cinéma, le découpage et le metteur en scène, et celle défendue par Quassac en 1929, donc le Code du cinéma c'est 1924, cet écart doit être compris à l'aune du changement profond qui affecte le cinéma durant ces années. Le passage progressif au parlant, qui qui concerne encore peu, en 1929, date du livre, le cinéma français, mais dont on sait déjà qu'il bouleverse les données technico-socio-économiques de l'industrie cinématographique américaine. On le sait à cette époque-là en France, puisque la presse française se fait très tôt l'écho de ces bouleversements. Vous ne serez pas surpris de constater que ce qui paraît inquiéter le plus cette presse française, ce sont les risques d'altération du statut du metteur en scène. Du cinéma, la revue créée et dirigée par Jean-Georges Auriol, publie ainsi un très long article sur le metteur en scène et le film parlant, dès 1929. Et ce texte opère une comparaison entre deux époques, celle qu'on n'appelle pas encore le muet, et qui se caractérise, selon les auteurs, par une appropriation du sujet du film par le metteur en scène au moyen du découpage. Découpage-texte, destiné en quelque sorte à libérer la pensée, et opposition avec la période du parlant, tout juste entamée, mais déjà perçue comme en quelque sorte dépossédante pour le metteur en scène, dont le rôle paraît dorénavant limité à mettre en image un découpage texte qui lui préexiste, qui plus est avec l'aide de techniciens spécialisés pour régler les problèmes du tournage sonore. Avant, le découpage texte permettait au metteur en scène de mettre à profit ses capacités d'imagination. Maintenant, le découpage texte, tel qu'envisagé dans le nouveau mode de production lié au parlant, le contraint à la seule fonction d'illustrateur d'un texte écrit. Alors, cela étant, la frontière entre les deux me paraît assez ténue et ça relève un peu de la spéculation. Alors, de cet exemple et d'autres que je n'ai pas le temps de mentionner, on comprend que le parlant, en réduisant les possibilités du découpage pensé, le son rend évidemment beaucoup plus difficile les manipulations de blocs d'images, a au contraire renforcé le rôle du découpage texte. L'équilibre entre les deux, qui était souhaité par beaucoup de professionnels français, cet équilibre paraît définitivement rompu. Donc les raisons de ce changement sont multiples et tout à fait logiques. D'abord, la volonté de rationaliser le travail à des fins d'économie, volonté que Boudrioz, que j'ai passé, évoque. Cette volonté se trouve en quelque sorte décuplée avec le parlant qui alourdit grandement le budget des films. Par ailleurs, la présence de la voix et du son donne une importance nouvelle à la question de la continuité entre les plans, donc qui prend une importance inédite. Le passage au parlant a d'ailleurs institutionnalisé une autre profession qui prend justement en charge le suivi de la continuité au tournage, puis au montage, la profession de script. Il existe à ce sujet quelques témoignages intéressants, comme par exemple celui de Jeanne Vita, qui travaille très régulièrement avec Marcel Carné dans les années 30 et 40, et qui raconte qu'elle débuta dans le métier au sein d'une société américaine, la Paramount, lorsque celle-ci s'installa en France, au tout début du parlant, pour y tourner des films en langue française. Son témoignage, qui a été publié dans Le cinéma par ceux qui le font, en 1949, indique que la script est initialement rattachée, chez Paramount, au service des scénarios, lequel produit, je la cite, « synopsis, dialogue, découpage, sous-titres et autres ». Très vite, on l'incite à collaborer au découpage, voire à rédiger le découpage des films, et elle ajoute, donnant ainsi du crédit à l'idée du découpage comme instrument de contrôle, que les scripts, donc je la cite, les scripts à la Paramount étaient l'œil de la direction sur le lieu de tournage. Ces premiers éléments, qu'une rapide exploration de quelques occurrences du terme dans les années 30, je vais essayer effectivement d'aller très vite, va confirmer, montrent qu'avec l'arrivée du parlant, la notion de découpage tend à se transformer assez radicalement. Certes, le découpage critique continue de circuler massivement, sans réelle transformation. Il devient d'ailleurs une sorte de lieu commun, de coquille un peu vide, très utilisé dans les critiques courtes, afin de porter un jugement en apparence objectivé, tout en s'épargnant la moindre argumentation. Bon, petit exemple ici. Mais parallèlement, on assiste donc à l'institutionnalisation d'un autre découpage. Le découpage texte, jusqu'ici très utilisé aux États-Unis, devient dorénavant une pratique extrêmement répandue en France, pratique que l'on signale à présent de manière régulière, mais pas systématique, au générique des films. Bien évidemment, ce changement de situation nous oblige à nous demander de nouveau qui découpe quoi. Or, on se rend compte ainsi que les années 30 constituent une période de grand flou, aussi bien pour le quoi que pour le qui. Nous l'avons vu, le découpage critique, initialement, partage en un sens son qui avec le découpage pensé, qui, le metteur en scène, et son quoi avec le découpage texte, quoi, un récit littéraire transformé en rythme visuel. Mais cette situation, qui semblait relativement stable, se modifie puisqu'en France comme aux États-Unis, le découpage pensé et le découpage texte tendent à converger vers un même qui, difficile à définir, nous venons de voir que ça peut être la script, si ce n'est par la négative, qui, pas le metteur en scène, c'est certain, en tout cas dans la plupart des cas. Cette convergence n'est évidemment pas sans incidence sur le « quoi ». À mesure que le découpage devient en même temps une pensée et un outil, c'est-à-dire un texte technique, c'est tout le sens de la transformation qui s'opère, à mesure donc que le découpage devient découpage technique, son objet est de moins en moins cette grande entité abstraite que j'ai appelée par commodité le continuum spatio-temporel, mais au contraire des entités plus concrètes qui peuvent être précisément définies et délimitées, des scènes et des séquences. Cette évolution accompagne une transformation des principes de production, tournage en studio, professionnalisation croissante des scénaristes, etc. Dès lors, le découpage texte n'a plus vocation à rendre cinématographiable un récit littéraire. Il prévoit plutôt, dans ses plus infimes détails, la continuité à instaurer entre tous les fragments tirés des scènes et des séquences qui structurent le scénario, afin de planifier au mieux un tournage entièrement sous contrôle. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Le bilan de tous ces changements à tous les niveaux, c'est que le découpage tend de plus en plus à échapper à la sphère de la création, scénariste ou metteur en scène, pour entrer dans celle de l'organisation sociotechnique. La presse française témoigne de multiples manières de cette place désormais centrale qu'occupe dans le processus de production d'un film ce qu'on nomme découpage technique. Alors, à quoi est-ce qu'on la repère, cette place centrale? Bon, différentes choses, certaines anecdotiques, d'autres moins. Déjà, vous le voyez, des sociétés de dactylographie et de copie font de la publicité dans les revues corporatives de cinéma, preuve d'un marché nouveau né de la proportion inédite que prend l'activité de découpage. Ces faits de dactylographie et de copie sont bien sûr intégrés au devis des films, dans lequel figure aussi dorénavant le travail de découpage. Travail opéré par un découpeur professionnel qui, au même titre que les autres techniciens et collaborateurs de création, est très officiellement pris en compte pour déterminer la nationalité exacte d'un film. Cette reconnaissance institutionnelle qui est octroyée aux découpeurs et au découpage l'est d'autant plus facilement que chacun peut témoigner à cette époque du rôle fondamental que joue le découpage. Suprême honneur, cette activité de découpage obtient le droit de figurer en bonne place sur les affiches de films, sur le même plan que le dialoguiste et que l'opérateur, qui est un phénomène en soi assez remarquable. Et cette fonction, celle de découpeur, devient l'affaire de spécialistes que l'on présente comme tels et que l'on retrouve effectivement de manière régulière au générique des films. Bref, le découpage technique devient aussi un savoir-faire que toute personne ambitionnant de s'adonner au cinéma doit connaître, à défaut de le maîtriser totalement. Marcel Pagnol l'a bien compris, lui qui inscrit la pratique du découpage au cœur d'un arsenal technique, pellicule, montage, son, dont il croit devoir montrer qu'il le maîtrise, à une époque où il est renvoyé à son statut d'auteur de théâtre, uniquement préoccupé par un enregistrement prétendument peu ambitieux de ses pièces. Mais on peut penser aussi que Pagnol, en bon observateur des mœurs cinématographiques qu'il est, se réfère ici à la pratique du découpage pour d'autres raisons. D'abord parce que tout porte à croire que ce qu'il appelle ici découpage renvoie peut-être plus au découpage pensé qu'au découpage texte, découpage technique. En effet, dans Cinématurgie de Paris, en 1933, il reprend à son compte le discours sur le découpage immatériel comme phase de l'acte de création artistique en cinéma. Ensuite, parce que même si dans l'interview il se réfère peut-être bien au découpage technique et non au découpage pensé, montrer qu'il entend s'occuper personnellement de cet aspect le place dans la catégorie assez peu fréquentée des metteurs en scène français des années 30 qui contrôlent suffisamment la création cinématographique pour pouvoir revendiquer de ne laisser à nul autre la tâche de découper leurs films. Ils sont peu nombreux. Mais donc Pagnol s'érige ainsi en auteur cinématographique aux côtés de Carnet, par exemple, qui signe jusque dans les génériques de ses films ses découpages, aux côtés de Renoir, évidemment, aux côtés de L'Herbier, même si ce dernier, qui contribue avec d'autres à théoriser le découpage pensé comme phase essentielle de l'art cinématographique, souffre dans les années 30 de devoir s'accommoder au nouveau mode de production des films qui le dépossède parfois d'une part non négligeable de ses prérogatives artistiques, y compris de manière ô combien symbolique lorsqu'il s'attelle au remake de ce film fondateur que fut Forfaiture. Ce que montre le cas L'Herbier, à contrario des exemples de Pagnol, Carnet, Renoir auxquels on pourrait ajouter Duvivier, c'est que les metteurs en scène français des années 30, aussi célèbres soient-ils, peinent à réobtenir le droit de s'occuper personnellement de leur découpage. En fait, même si la fonction existe dans le cinéma français des années 30, le découpeur, lui, n'existe pas vraiment. Et beaucoup de productions présentent un certain flottement lorsqu'il s'agit d'attribuer le travail à tel ou tel. Sur ce point, le cas Forfaiture est encore éclairant, puisque après avoir annoncé successivement un film mis en scène par Fédor Osep, c'était le cas au départ, et découpé par deux spécialistes, dont encore Jacques Compagnès, puis un film mis en scène par Lherbier, mais toujours découpé par les mêmes spécialistes. La production annonce finalement un film écrit par Auriol, avec les deux spécialistes du découpage, mais qui ne sont plus découpeurs, puisqu'il y a un nouveau découpeur. Il y a donc un très grand flottement, mais on se rend compte que finalement, tout le monde peut être découpeur. C'est parfois l'assistant, c'est parfois la script, c'est parfois le scénariste, c'est parfois l'assistant metteur en scène. Et puis on fait des équipes entre découpeur et metteur en scène, par exemple entre Jean Dréville et Robert-Paul Dagan. Donc ce duo entre Dréville et Robert-Paul Dagan prépare tout de même en 1937 quatre films. C'est quand même hallucinant, quatre films en une seule année. Et ça montre bien, s'il était besoin, combien l'adoption de ce mode de production centré sur le découpage technique correspond en France, à cette époque, à une volonté de rationalisation de la création cinématographique, d'autant plus importante que l'industrie française du cinéma a adopté une politique de production assez massive qui ne peut fonctionner qu'en se basant sur des méthodes productives et rentables. Cette soudaine centralité du découpage technique dans le mode de production, centralité sans équivalent durant les années antérieures comme postérieures, se produit donc au prix d'un grand bouleversement de l'organisation sociale de ce mode de production en France, dont on a vu quelques symptômes, amoindrissement du rôle du metteur en scène, renforcement des fonctions de l'assistant, apparition du métier de la script, etc. La résultante de ces bouleversements, c'est que la phase de découpage s'en trouve vidée de sa substance artistique, le découpage texte prenant le pas sur le découpage idée, dès lors que le metteur en scène ne joue plus un rôle aussi déterminant durant cette phase. Ce que l'on peut résumer par la formule suivante, un peu lapidaire, j'en conviens. La phase de découpage est donc en effet vidée d'une bonne part de sa substance artistique, pour n'être plus qu'une pratique technique, une opération certes humaine, mais presque mécanique, alors que le découpage était apparu du côté de ce que j'ai appelé le cinéma manufacturé. On comprend ainsi que pour beaucoup, ce nouveau découpage, qu'il soit alors qualifié de technique ou plus tard de classique, selon aussi que l'on met l'accent sur le processus de création ou sur son résultat, on comprend que ce nouveau découpage ait pu représenter pour beaucoup un risque de perte d'artisticité pour le cinéma, d'autant plus à une époque où cette artisticité paraît, aux yeux de certains, être également mise en péril par les changements techniques qui affectent le médium. Dès lors, les principales opérations de rethéorisation du découpage en France dans les années 30 peuvent être perçues, vues comme des tentatives de résolution de cette question. Comment le découpage, à l'époque de sa forme technique, peut-il relever ou être le gage d'une pratique artistique? Premier élément de réponse, d'abord en le replaçant dans le giron du metteur en scène. Deuxième étape, là, il y a deux possibilités. La première possibilité repose sur un principe de résistance et consiste à opposer à l'esthétique continuiste, si je puis dire, prônée implicitement par ce nouveau découpage, à lui opposer donc la prévalence toujours actuelle de la discontinuité. C'est la position qui traverse souterrainement l'esquisse d'une psychologie du cinéma de Malraux. La seconde consiste à se demander, un peu à l'inverse, ce qui, dans cette nouvelle pratique du découpage, relève encore ou relève à présent de l'art. Pour le dire autrement, cela consiste à voir les modifications autour du découpage comme les symptômes de changements profonds dans la nature même de l'art cinématographique. Il me semble que c'est en partie la position de Lenhardt, pour qui l'art cinématographique n'est pas forcément lié à sa dimension manufacturée et peut très bien s'accommoder d'une dimension mécanique, automatique. Plus exactement, l'art est justement dans la conciliation entre le manufacturé et le mécanique, dans la manière dont le découpage permet de lier, principe de continuité, du discontinu, de l'hétérogène, permet de donner une forme à la matière brute livrée par l'objectif, comme le dit Lenhardt. Tout le paradoxe étant ici de reverser le mécanique sur l'enregistrement, la matière brute livrée par l'objectif, et de maintenir le découpage dans la sphère du manufacturé, Lenhardt insistant fortement, tout comme Malraux d'ailleurs, sur le rôle du découpeur, sur lequel il s'arrête. Paradoxe, puisqu'il s'agit en quelque sorte de renverser ce qui paraît être les données presque intangibles du cinéma français de cette époque, une création humaine plutôt du côté de l'enregistrement, voire l'importance conférée à cette époque au modelage du pro-filmique par les décors, la photographie, etc., et une dimension mécanique plutôt du côté de la planification et de l'uniformisation opérée par le découpage technique. Alors, je prends juste 5 minutes, pour amorcer uniquement quelques pistes sur les années 40, donc, puisque j'ai dit que je m'arrêtais à la période dite basinienne. Donc, partant de là, de cette situation qui détermine principalement deux types de réactions, les quelques modifications qui affectent la question du découpage durant le début des années 40 s'effectuent plutôt à la marge. L'organisation sociale du cinéma français qui se met en place pendant la guerre, basée sur un contrôle de l'État tant financier qu'idéologique, a tout intérêt à maintenir au découpage sa position centrale dans le processus de production. Le découpage texte peut donc être déposé auprès du Crédit National à des fins d'aide au financement, aussi bien qu'auprès des instances en charge de la censure. Le découpage technique se trouve donc lesté d'un poids institutionnel inédit. Cette pression institutionnelle autour du découpage explique sans doute deux évolutions importantes dans l'existence sociale du découpage. Le découpage technique est maintenant enseigné dans une école spécialisée qui apparaît pendant la guerre, si bien qu'il fait l'objet de longs développements dans des ouvrages techniques destinés aux étudiants. Et le découpage technique est même enseigné dans des formations à distance. Il y a des écoles de cinéma à distance et on fait des brochures sur le découpage. Tout cela contribue bien sûr à une vision normative et techniciste du découpage qui creuse un peu plus le fossé avec la vision originelle du découpage comme principe fondateur de la création cinématographique. Deuxième évolution, et cela se retrouve d'ailleurs dans les divers documents que je viens d'évoquer, l'identité du sujet découpeur tend enfin à se fixer. C'est dorénavant l'assistant metteur en scène qui est officiellement en charge du découpage technique, en tout cas dans la grande majorité des cas. Ou plus exactement, le découpage peut être rédigé par l'assistant, mais son contenu est nourri par un travail collectif qui réunit la plupart des collaborateurs de création associés au tournage. Ce processus d'institutionnalisation du découpage ne rend donc que plus patent encore son apparente inconciliabilité avec les dimensions artistiques du cinéma. D'autant que ni la proposition Malraux, ni la proposition Lénard, que j'appelle comme ça par commodité, n'ont pleinement résolu cette aporie. La proposition Malraux paraissant en partie se couper de la réalité sociale du découpage, et la proposition Lénard tentant plutôt de contourner le problème, ou plus exactement de le renverser. Et puisque dorénavant le découpage relève du contrôle idéologique et financier, puisqu'il peut être enseigné, là où l'art, dans l'imaginaire collectif, relève plutôt du don, puisqu'il est produit par un collaborateur subalterne, comment peut-il représenter encore une phase essentielle de la création artistique ? Et donc là encore, après-guerre, plusieurs réponses sont envisagées. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte aussi revendication de la part des metteurs en scène pour retrouver la possession du découpage. Et il y a vraiment deux tendances qui s'opposent. Le cinéma comme régenté par le metteur en scène, et puis le cinéma comme pratique collective, ce qui est ici pas du tout discuté, hein, plutôt admis normalement par un critique comme Gérard Caillet dans Opéra. Mais ce côté collectif, qui est renforcé par la place centrale du découpage, pose bien sûr problème à un moment où une bonne part de la critique tente de réinstaurer le metteur en scène comme auteur absolu du film, et se paie même le luxe de commencer à le faire à partir du cas de cinéaste américain, Hitchcock, là encore c'est pas un hasard s'il revient ici, qui justement revendique la maîtrise du découpage. Cette situation contribue à expliquer, et je vais presque en terminer là, que ce que construit la critique française de l'époque, Bazin en particulier, mais d'autres, c'est une nouvelle acception du découpage, acception qui rapproche non pas découpage texte et découpage pensée, mais découpage pensée et découpage critique. Une acception qui permet tout à la fois de rendre compte de la pensée créatrice en cinéma et d'évaluer le résultat de cette pensée. Il s'agit aussi, bien évidemment, d'une nouvelle façon de répondre à qui découpe quoi. Le qui est évident, c'est de nouveau le metteur en scène. Mais il faut se rendre compte que c'est un grand changement par rapport aux années 30. Le quoi l'est tout autant, c'est le réel. En fait, ce qui change fondamentalement, c'est le rapport par le découpage entre le qui et le quoi, ou plus précisément le moment où le qui, si je puis dire, découpe le quoi. En effet, le découpage tel qu'envisagé par cette nouvelle génération de critiques fait l'objet d'un déplacement dans la chaîne de production. Il ne concerne plus seulement l'avant-tournage, le fait de consigner par écrit des éléments à tourner ou le fait d'anticiper par la pensée ce qui sera tourné, mais s'inscrit principalement dans la temporalité du tournage. La préparation du film doit être en quelque sorte réinventée au tournage par la confrontation au réel. Le découpage devient alors une façon d'agencer des bribes de réel ou des bribes comme dans le monde réel, pour reprendre l'expression d'Amingual, toujours dans le même texte. Question qui trouve d'ailleurs des prolongements chez Chartier comme chez Bazin, avec l'idée du découpage comme forme reproduisant la perception courante par mouvement d'attention successif. Ce qui nous ramène quelque peu à Lénard. La différence avec ce dernier me semble principalement se situer, et encore une fois, c'est tout l'enjeu, dans le déplacement de la phase de création du découpage, de l'avant-tournage au tournage. C'est tout l'enjeu parce que cette nouvelle conception du découpage qui se développe avec Bazin, mais aussi à côté de Bazin, au-delà de Bazin, à Mingoal, Chartier, etc., paraît entretenir un lien presque trop évident avec non pas une autre conception du découpage, mais une autre pratique du découpage qui émerge en France et ailleurs à la fin des années 50. Donc c'est là une autre histoire que je laisse le soin à d'autres d'évoquer pendant ce colloque.